Plusieurs drames sur nos routes. Après l'accident mortel survenu à Ouégoua le matin, un homme de 41 ans a perdu la vie à Ouvéa hier soir. Une enquête est en cours. Le monde du sport en deuil après la mort d'un participant au marathon de Nouméa. Un jeune de 25 ans a succombé à un malaise. Une enquête est en cours là aussi. Retour sur ce drame dès le début du journal. L'actualité à l'étranger, l'AFD s'impose largement en Allemagne. Le parti d'extrême droite remporte l'élection en Saxe-Anhalt où il obtiendrait 39 sièges dans le Land. Et puis reprise des discussions pour mettre fin à la guerre en Ukraine avec la Russie. Donald Trump a envoyé ses deux émissaires. Ils estiment que les deux pays devront faire des compromis. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, un coup d'œil au MAG des sports. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Nicolas.
Et c'était un week-end de reprise pour le championnat de France de rugby, le top 14 qui a repris ses droits.
Les fans d'Ovalie sont servis, le championnat de France est reparti. Une première journée marquée par la chute du quadruple tenant du titre, le Stade Toulousain sur les terres de La Rochelle. Au terme d'un duel serré, les Rochelais l'emportent 30-27 sur une pénalité à la sirène. La saison promet d'être intense.
La Formule 1 avec Kimi Antonelli qui s'impose au Grand Prix d'Italie.
La remontada est un mot espagnol et pourtant il a bien servi au pilote italien sur Mercedes à Monza. Le leader du championnat du monde qui s'était lancé de la 19e position a fini vainqueur de la course. Le français Pierre Gasly, après avoir réussi l'exploit de signer la pole position, a dû se contenter de la 7e place.
Et évidemment dans le MAG des sports, on va passer en revue l'essentiel des résultats et sur le territoire, on va évoquer l'actualité du triathlon.
Oui, la sélection calédonienne de retour de Tahiti où elle a participé à un test event sur le site qui accueillera les épreuves aux Jeux du Pacifique de 2027. Et par ailleurs, le 20 septembre prochain, l'un des grands rendez-vous de la saison sur le territoire, le Triathlon du Soleil à Nouméa. Une 36e édition dont nous parlerons avec nos invités. Éric Savignac, le président de la Ligue calédonienne, ainsi que Charlotte Robin, manager de la sélection.
À la une, un accident mortel de la circulation a eu lieu hier soir à Ouvéa. Au niveau de la tribu de Ouloup, un homme de 41 ans a perdu le contrôle de son véhicule. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident. Et déjà le matin, un autre accident mortel de la circulation est survenu à Ouégoua. Une voiture a fait une sortie de route. Deux personnes se trouvaient à bord du véhicule. L'un des occupants, une jeune femme de 35 ans, a été éjectée de l'habitacle et a trouvé la mort. Depuis le 1er janvier, 21 personnes sont mortes sur les routes calédoniennes. Retour également sur ce drame survenu hier lors du marathon international mobile de Nouvelle-Calédonie. Un jeune homme de 25 ans est décédé après avoir été victime d'un malaise près de la ligne d'arrivée, Léo Fichou.
Oui, malgré l'intervention des pompiers, la victime n'a pas pu être réanimée. D'autres coureurs victimes, eux aussi de malaise, ont été pris en charge par les secours avant que la municipalité n'arrête la compétition à 11h. Le lieutenant-colonel Géraldine Bourgoin, chef de corps des sapeurs-pompiers de Nouméa.
On a été appelé à vers 9h30 en renfort pour deux victimes, une qui était en arrêt respiratoire et une autre qui était en hyperthermie sévère. On est arrivé bien évidemment avec le SAMU qui a été déclenché dessus. Malheureusement pour le jeune homme qui était en arrêt, malgré la réanimation et tout ce qui a été entrepris, le médecin du SMUR l'a déclaré décédé. Ensuite, nous avons pris en charge les autres victimes et il s'avère qu'au fur et à mesure des minutes, d'autres victimes se sont rajoutées une fois qu'on était présent et on est arrivé jusqu'au nombre de 8 quand même et avec 4 transports sur ces 8 victimes.
8 coureurs victimes de malaise en l'espace de très peu de temps, mettant les moyens de secours à rude épreuve, malgré un dispositif particulièrement important mis en place par les organisateurs. Écoutez, Jérôme Troya, le président du comité d'organisation du marathon, il est également le président de la Ligue calédonienne d'athlétisme.
La législation pour une course entre 1000 et 3000 coureurs sur la journée nous impose d'avoir un médecin, un infirmier, une ambulance et une équipe de secouristes. Dans notre cas, nous, on avait deux médecins, deux infirmiers urgentistes, trois kinés, un podologue, une pharmacienne, tout ça c'est notre pôle, plus une ambulance évidemment, plus une équipe de 12 secouristes de la Croix-Rouge. Donc on est bien au-delà, on a plus que doublé le nombre d'intervenants. Maintenant, on ne peut pas faire plus. Notre gros problème, c'est que tout s'est passé en même temps et tous les services que contiennent la Calédonie autour de Nouméa s'y est mis. À tel point qu'il a fallu arrêter la course parce que pour d'autres événements extérieurs, un accident de la route, etc., en fait, il n'y avait plus personne, tout le monde était sur le marathon.
Un décès avait déjà endeuillé l'épreuve en 2010 lors de la 28e édition. Un coureur de 47 ans avait été victime d'un malaise à moins d'un kilomètre de l'arrivée. Le lieutenant-colonel Géraldine Bourgoin rappelle qu'un marathon reste une épreuve exigeante qui ne doit pas être prise à la légère et que les malaises peuvent avoir plusieurs causes.
Je pense que c'est multifactoriel parce que les profils étaient complètement différents, que ça soit l'âge, sportif, amateur, sexe, enfin tout était vraiment différent. Les malaises étaient aussi d'origine différente. Il faisait chaud, ça c'est quand même une évidence hier. Après, je pense qu'il faut pas aussi oublier, hein, on n'est pas sur la petite course du dimanche, on est quand même sur une course de longue distance qui présente forcément aussi des risques.
Dans un communiqué, la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, a adressé ses condoléances à la famille et aux proches du coureur, tout comme le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a aussi publié un communiqué.
J'ajoute que le procureur de la République, Yves Dupas, a lui aussi publié un communiqué. Il annonce avoir ouvert une enquête pour déterminer de manière précise les causes de la mort du jeune homme.
Radio Rythme.
Plusieurs disparitions inquiétantes à signaler également à Nouméa en bref. La première recherche concerne une jeune mineure de 16 ans, métisse wallisienne, mesurant 1m75, de corpulence mince, cheveux noirs, teintés en marron aux extrémités. Nadège, c'est son prénom, possède également un tatouage tribal au niveau de la cuisse gauche. Elle a quitté son domicile samedi après-midi. Et puis une autre mineure de 16 ans, là aussi, est disparue depuis une semaine maintenant. Elle a été déposée au lycée Escoffier lundi dernier et ne s'est pas rendue en cours. Elle n'a pas été revue depuis. Âgée de 16 ans, Maïlis est de type eurasienne et mesure 1m60-65 environ. Elle est mince, elle a les cheveux noirs à hauteur des épaules et elle a des tatouages également sur les doigts. Pour ces deux disparitions, vous composez le 17 hein, si vous avez des informations, le 17 ou alors le 24-33-00, le 24-33-00.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous la position du président de la République de favoriser la reprise des usines de nickel de Nouvelle-Calédonie, mais de fermer la porte aux investisseurs chinois? Si vous approuvez cette position, vous tapez 1. Si vous ne l'approuvez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à notre question du jour. Et justement, Elisabeth Noir revient sur le déplacement de la mission transpartisane à Paris dans sa chronique de la semaine écoulée.
Ils étaient 9, enfin 8, parce que le sénateur naturel n'est arrivé qu'au tout dernier jour du déplacement de la mission transpartisane. Ils étaient 9, mais l'un d'eux y était sans y être parce que le député Emmanuel Chibaou avait laissé de côté sa casquette de président de l'Union calédonienne. Ils étaient 9, donc, et ils reviennent avec des milliards. Au-delà de la simplification du trait, la mission transpartisane qui vient de terminer son déplacement aura obtenu ce qu'elle était allée chercher, une aide conséquente, pour ne pas dire massive, de la part de la France. Les élus calédoniens avaient clairement précisé le but de leur déplacement. Il leur fallait obtenir une aide financière pour boucler l'année 2026, une avance pour commencer l'année 2027 et la garantie d'un soutien réaffirmé pour tenir tout au long de l'année prochaine. Et ils ont fait carton plein, puisque le gouvernement va débloquer 1,3 milliard pour la fin 2026 et 6 milliards pour démarrer 2027, au travers d'un projet de loi de finances de fin de gestion. Le gouvernement qui propose ensuite entre 48 et 55 milliards qui seront compris dans le projet de budget 2027, dont une majorité de subventions pour ne pas aggraver l'endettement de la Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas dire que c'était inespéré, parce que c'est précisément ce que nous espérions de la France. Mais elle a été une fois de plus au rendez-vous, malgré la situation dramatique des finances publiques nationales. Mission accomplie donc pour la mission transpartisane, mais tout n'est pas réglé pour autant. Il y aura d'abord l'obstacle de l'adoption par le Parlement de la loi de finances 2027, et l'on sait que c'est un exercice à haut risque pour le Premier ministre. Il y aura ensuite la préparation et l'adoption des réformes de fond que le territoire s'est engagé à faire pour justifier cette nouvelle aide de l'État. Et l'on sait que c'est un exercice à haut risque pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Notre autonomie, dont nous sommes jaloux, a un coût. Et nous ne pourrons pas en permanence aller quémander de quoi assurer nos fins de mois ou nos fins d'année. Ce sera l'objet du contrat financier pluriannuel qui devrait être conclu avant la fin 2026 entre l'État et la Nouvelle-Calédonie pour la période 2027-2031. Mais si tout n'est pas réglé, on peut dire que la situation des prochains mois s'est éclaircie et personne ne peut s'en plaindre. On espère aussi une éclaircie pour la filière nickel, après que le président de la République ait largement évoqué ce sujet stratégique en réaffirmant la volonté de voir les usines trouver des repreneurs tout en écartant les repreneurs chinois. L'autre satisfaction à l'issue de ce déplacement, c'est le niveau auquel la Nouvelle-Calédonie est traitée à Paris. Le Sénat, l'Assemblée nationale, Bercy, Matignon et cerise sur le gâteau, l'Élysée, on ne s'est pas moqué de la mission transpartisane qui a été reçue, comme on dit, au plus haut niveau de l'État. Et il faut rappeler que c'est un traitement exceptionnel, même si les Calédoniens ont parfois l'air de trouver cela normal. Ce qui frappe aussi, c'est l'unanimité qui a dominé ces rencontres, l'exemple ultime étant l'initiative transpartisane, elle aussi, du groupe de contact de l'Assemblée nationale, qui a écrit au président de la République pour réaffirmer son soutien indéfectible à la Nouvelle-Calédonie. Une lettre signée des représentants des 12 groupes allant du Rassemblement national à la France insoumise. Un soutien indéfectible, même et surtout, si on n'a pas parlé de ce qui fâche. Il a été convenu unanimement de mettre en pause les discussions sur l'avenir institutionnel. On en reparlera après la présidentielle et les législatives. Mais le Premier ministre met en garde. Toutes les difficultés du territoire ne peuvent pas attendre un nouvel accord global sans date fixée, prévient Sébastien Lecornu. Il faudra bien en reparler. Mais cette mission transpartisane a eu des allures de trêve. Et comme d'habitude, ceux qui n'étaient pas là ont eu tort. C'est bien connu. Les absents ont toujours tort.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à réécouter cet après-midi à 16h dans le Tout Info ou alors sur notre site internet le www.rrb.nc. Il est 11h passé de 43 minutes. On va marquer une première pause publicitaire. On se retrouve juste après pour voir toute l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Tous les vendredis midi, c'est Ossobuco au Pizza and Pasta. Un plat généreux, mijoté avec amour, servi avec ses spaghettis, fondants, savoureux, réconfortants. Le vrai rendez-vous gourmand de fin de semaine. Tous les vendredis midi, ne cherchez plus. C'est Ossobuco au Pizza and Pasta. Réservez votre table au Pizza and Pasta au 24 30 70.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Allez, direction l'Allemagne et cap sur Magdebourg précisément. Tout d'abord dans la capitale du Land Saxe-Anhalt, en Allemagne, où les électeurs devaient désigner leur nouveau parlement régional. Et le parti d'extrême droite, l'AFD, remporte l'élection avec plus de 40% des voix, selon les premières estimations. Très loin devant les conservateurs de la CDU. L'alternative pour l'Allemagne arrive pour la première fois à la tête d'un Land et entend bien peser dans l'équilibre politique allemand. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Ce soir, nous avons écrit une page d'histoire. Voilà les premiers mots d'Ulrich Siegmund dès l'annonce des résultats partiels. Le candidat largement victorieux de l'AFD en Saxe-Anhalt, 35 ans, vedette des réseaux sociaux, partisan de l'aile la plus radicale de son parti. Il rêve d'être le fer de lance d'une recomposition du paysage politique en Allemagne, avec un programme de rupture, durcissement de la politique migratoire, des expulsions massives, un rapprochement avec la Russie, le retour d'un modèle familial traditionnel ou encore une remise en cause des politiques climatiques. Quant à sa vision de l'éducation, la promesse d'une modification des programmes d'histoire trop centrés à son goût sur la culpabilité de l'Allemagne nazie. Ce discours, Ulrich Siegmund est parvenu à l'imposer tout au long de sa campagne en jouant d'abord avec brio sur une forme de nostalgie de la RDA, comme lorsqu'il est arrivé tout à l'heure au bureau de vote sur un Simpson, cette mobilette iconique de l'ex-Allemagne de l'Est. Sur ses réseaux sociaux, 800 000 abonnés sur TikTok, comme dans ses meetings, le candidat capitalise sur une corde sensible pour les Allemands de l'Est, le sentiment grandissant de déclassement au profit de l'Ouest du pays, jugé plus riche, et même au profit des étrangers. Reste une inconnue ce soir pour l'AFD. Le parti va-t-il obtenir la majorité absolue dont il rêve? Sans elle, la coalition semble bien difficile, alors qu'aucun parti ne semble pour l'instant prêt à un accord avec l'extrême droite.
Wilfried de Villers pour Europe 1. Toujours dans l'actualité à l'étranger, les pourparlers se sont achevés à Kiev, mais se poursuivront aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ce qu'a déclaré Steve Witkoff, l'un des émissaires de Donald Trump avec Jared Kushner. Au lendemain de leur visite à Moscou et d'échanges avec Vladimir Poutine, ils ont rencontré Volodymyr Zelensky. L'objectif était de relancer les négociations de paix sur la question des territoires et d'obtenir des garanties de sécurité. Des discussions de plusieurs heures, qualifiées de significatives par les responsables américains, avec peut-être un point d'entente. Il pourrait concerner les territoires de l'est de l'Ukraine occupés par l'armée russe et que Volodymyr Zelensky souhaite reprendre. Mais selon le géopolitologue Jean-Baptiste Noé, Kiev aurait tout intérêt à céder sur cette question.
On voit mal comment l'Ukraine pourrait aujourd'hui reprendre ses territoires d'un point de vue militaire, même si l'armée ukrainienne résiste très bien. Elle n'a pas les moyens de passer au stade d'après, qui est de briser les forces russes et reprendre le territoire conquis. Ensuite, il y a un épuisement de l'armée ukrainienne, qui malgré tout manque d'hommes, il manque d'armes, et en tout cas est inférieure par rapport aux Russes.
D'autant que la Russie pourrait lancer une offensive d'envergure sur l'Ukraine dans les prochains mois.
On va avoir courant septembre des élections législatives en Russie et est annoncé après une levée en hommes. On annonce 300 000 hommes. En tout cas, l'Ukraine s'attend à avoir une nouvelle attaque vigoureuse de la part de la Russie avec une crainte forte qu'elle ne puisse pas faire front à cette attaque. Et donc dans ces cas-là, elle préfère négocier avant.
Jared Kushner et Steve Witkoff espèrent désormais que les discussions en faveur de la paix se poursuivront au cours des prochaines semaines. En bref, Ursula von der Leyen a entamé une visite au Groenland. La présidente de la Commission européenne y reste 2 jours. Un voyage pour réaffirmer le soutien de l'Europe à ce territoire convoité par Donald Trump. Elle va rencontrer le chef du gouvernement groenlandais et la première ministre danoise. 8 aéroports fermés en Indonésie, dont le plus fréquenté à Jakarta, après l'entrée en éruption d'un volcan. L'Anak Krakatoa a cloué au sol 467 vols. Dont 58 internationaux et plus de 170 000 passagers. C'est la dispersion des cendres volcaniques qui a contraint à suspendre l'activité aérienne. Et puis un avion cargo d'Amazon est sorti de piste à Miami. Il a percuté des véhicules et a pris feu. Le bilan provisoire fait état d'au moins 5 morts et plusieurs blessés. Dans l'actualité politique nationale, Fabien Roussel confirme sa candidature à l'élection présidentielle. Le secrétaire national du Parti communiste a été investi par les militants avec 72% des voix. Une annonce qui ne plaît pas à certains élus de son parti et surtout de la France insoumise qui l'accuse d'avoir empêché déjà Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour en 2022. Dans cette campagne, les attaques contre le Rassemblement national se multiplient. Ce week-end à Lille, Jean-Luc Mélenchon a qualifié Jordan Bardella de fasciste sans réputation. Quant à Bruno Retailleau, il s'en est pris également au RN, un parti girouette, empreint d'amateurisme selon lui. Le candidat des Républicains qui continue de tracer sa route présidentielle et affirme sur BFM qu'il écarte tout ralliement politique. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Oui, Bruno Retailleau se dit confiant et assure qu'il ira jusqu'à la victoire qu'il juge à portée de main. Il écarte ainsi tout ralliement à Édouard Philippe. Pour lui, le bloc central ne pourra jamais remporter la présidentielle, plombée par le bilan d'Emmanuel Macron. Bruno Retailleau réserve ensuite ses attaques les plus dures au Rassemblement national et notamment à Marine Le Pen.
Pour la 9e fois, ces bulletins de vote porteront le nom de Le Pen. Et ce sera le 9e échec. Marine Le Pen ne l'emportera pas. Elle échouera. Et malheureusement, elle peut faire gagner, par exemple, la gauche, ou alors des candidats macronistes.
Jordan Bardella, lui, est qualifié de parfait amateur après son accord sur l'immigration signé avec Nigel Farage. Bruno Retailleau va plus loin en qualifiant le Rassemblement national de parti girouette en raison de ses revirements sur l'euro, l'Europe ou encore le nucléaire. Une ligne de crête assumée donc pour Bruno Retailleau qui renvoie le RN et les macronistes dos à dos tout en misant sur une droite forte capable de l'emporter seule.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen qui caracole en tête des sondages. Selon Opinionway, pour le JDD, la candidate du RN arrive loin devant au premier tour de la présidentielle avec 33 à 35% des voix. Jean-Luc Mélenchon parvient lui à recueillir 16 à 17%, si bien que le RN et LFI sont la cible de tous les coups. Ils représentent une menace pour le bloc central et la gauche, selon François Bayrou, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
Les choix des deux extrêmes, c'est pour ça que je dis la tenaille du pire, c'est une tenaille entre pire et pire. Les deux plongeraient la France dans une situation dont elle ne sortirait pas. Je dis que le danger est un danger, comme on dit en médecine, létal, c'est-à-dire question de vie ou de mort.
L'ancien Premier ministre François Bayrou appelle de nouveau à une grande primaire, à un tour préliminaire, comme il l'a qualifié, pour éviter un duel RN-LFI au second tour. Pour lui, il n'y a plus de premier tour lors de l'élection présidentielle. Une interview dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos à écouter en intégralité sur Radio Rythme Bleu, juste après notre journal de 17h45 ce soir. En attendant, il est 11h passé de 52 minutes. Vous écoutez R1B, une nouvelle pause publicitaire. On se retrouve juste après pour voir la suite de l'actualité sur le territoire et notamment cette 11e conférence des îles du Pacifique sur la conservation de la nature.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
J'ai envie d'un Burger King. J'ai vraiment pas envie de bouger.
Nidit.
Commandez.
Déjà. Maintenant livré avec Nidit. Commandez sur www.nidit.nc.
Burger King.
Gagnez 100 000 francs de bons d'achat à dépenser comme vous voulez, où vous voulez. Envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, 100 000 francs sont à gagner. Et chaque SMS est pris en compte pour le tirage au sort du million. Envoyez RRB au 4020. Bonne chance. 371 francs par SMS. Règlement à l'accueil de la radio.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite de votre journal d'actualité locale avec Nicolas Legrand.
Et la 11e conférence Nature des îles du Pacifique qui s'est donc ouverte ce matin au centre culturel Chibaou. L'événement réunit des ministres et près de 400 représentants venus d'une vingtaine de pays et territoires de la région, Léana Colombo.
Oui, une conférence qui a débuté par plusieurs discours, notamment une allocution vidéo du président du gouvernement Milakulo Tukumuli, du haut-commissaire Jacques Billan, mais aussi de nombreux ministres. Au-delà du renforcement de la coopération régionale, cette conférence entend apporter des réponses concrètes aux enjeux liés à la biodiversité et au changement climatique. Juanito Wamitan, membre du gouvernement chargé du suivi des questions liées à la mer et au parc naturel de la mer de Corail, y défendra notamment les intérêts et les enjeux de cette aire marine protégée.
Nous disposons d'un parc marin de la mer de Corail avec des modalités de gestion auxquelles il faut que les uns et les autres qui sont dans le comité de gestion, des associations environnementales, des ONG, l'État, etc., puissent assumer à son niveau les responsabilités nécessaires à ce que nous préservions les espaces en question, tout comme les espaces lagonnais, hein, comme on en a 6 inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008, et c'est le périmètre provincial, et on a, nous, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, un périmètre en haute mer qu'il est important de préserver. Donc si chacun travaille à son niveau, sur son territoire, on va dire, avec les compétences qu'il a, on peut répondre aux enjeux et aux attentes, voilà, qui sont des attentes communes au niveau régional.
L'un des temps forts de cette conférence se déroulera cet après-midi avec la présentation de la déclaration d'intention. Et jusqu'à vendredi, les échanges porteront également sur la vision kanak de l'océan. Les représentants coutumiers auront ainsi l'occasion de présenter leurs ambitions et leurs attentes pour le territoire.
Et il ne faut pas opposer environnement et développement économique. C'est le message de Kael Normandon, le président de la commission de l'environnement de la province sud. Peu avant la cérémonie d'ouverture de cette 11e conférence des îles du Pacifique sur la conservation de la nature, l'élu a tenu à saluer l'organisation de cette manifestation, mais il regrette aussi que les provinces n'y soient pas associées comme elles devraient l'être.
Les provinces, et notamment la province sud, c'est au quotidien des milliers de personnes sensibilisées, c'est au quotidien des dizaines d'actions en faveur de l'environnement, c'est des acteurs de terrain accompagnés, et tout ça, on regrette un peu que finalement cette conférence se soit un peu dévitalisée au profit parfois de la communication, au profit d'autres compétences, alors qu'on aurait tout intérêt à avoir une complémentarité entre les provinces et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le sujet.
Une complémentarité dont Kael Normandon regrette qu'elle n'ait pas été prise en compte, alors que la province sud, très impliquée dans le domaine de l'environnement.
Sur les aires protégées que les Calédoniens connaissent bien, puisque par exemple les différents parcs, le parc de la rivière bleue, le parc forestier, le parc des grandes fougères, mais aussi sur les différentes espèces protégées, tout le monde connaît le cagou, mais on en a en fait des dizaines et des dizaines. On a la politique d'instruction en matière environnementale et beaucoup de Calédoniens connaissent le code de l'environnement et les gardes nature chargés de l'appliquer. Et puis on a aussi des compétences en termes de gestion des déchets, de protection en lien avec l'agriculture, de développement des aires protégées et de sensibilisation de l'ensemble du public calédonien en matière d'environnement. Donc vous voyez que la province, en fait, elle fait vivre l'environnement et c'est pour ça que pour nous, c'était important de montrer que les collectivités qui sont en charge de cette compétence sont les principaux acteurs sur le sujet.
Et cette expertise gagnerait à être partagée, d'autant plus, souligne le président de la commission de l'environnement de la province sud, que lors de cette conférence, des engagements vont être pris par le gouvernement, avec notamment la signature d'une déclaration d'intention. Et il déplore qu'à ce stade, le projet de déclaration d'intention s'engage sur des notions contradictoires.
En fait, cette déclaration-là, elle vient s'engager sur des choses qui nous sont parfois contradictoires. Vous voyez, les Calédoniens, actuellement, ils vivent une période compliquée. On cherche à relancer l'attractivité économique du territoire, à relancer la venue de gens sur ce territoire et l'arrivée de talents. Et on vient questionner, par exemple, l'exploitation du minerai et la question, finalement, du nickel en Nouvelle-Calédonie. D'abord, c'est une compétence en grande partie provinciale. Par ailleurs, nous, on ne vient pas questionner cette exploitation du minerai. On a besoin que les mines fonctionnent et on a besoin que l'expertise que nos mineurs ont acquis sur la question de la protection protection de l'environnement, elle perdure. Et donc, en fait, nous, on veut créer un équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement. Et pour l'instant, ce n'est pas ce qui est fait dans ce projet.
Kael Normandon s'inquiète notamment de l'injonction contenue dans le projet de déclaration d'intention de se détourner de l'extraction minière au profit de secteurs régénérateurs et résilients.
Il faut savoir ce qu'on veut en Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis, comme de nombreux Calédoniens, issu d'une famille qui travaille dans la mine. Et en fait, la mine, ça fait vivre des villages, ça fait vivre la brousse, ça fait vivre la ville. Et on n'a pas besoin, à quelques semaines du positionnement de certains repreneurs sur la reprise des usines, d'avoir des messages contradictoires. Et en plus de ça, on n'a pas besoin d'opposer la protection de l'environnement avec la reprise économique. La protection de la biodiversité, c'est un socle sur lequel on s'appuie, et notamment à la province, pour le développement touristique, sur la mise en avant de l'agriculture, sur le développement d'activités en économie circulaire, la réutilisation et le réemploi des déchets. Et on a des dizaines et des dizaines d'acteurs qui gravitent autour de cette protection de l'environnement. Donc on n'a pas besoin d'opposer les deux domaines, on a plutôt besoin de conjuguer ce qu'on sait faire de mieux.
Une mise en garde de l'élu de la province sud alors que débute la 11e conférence des îles du Pacifique sur la conservation de la nature. Une interview de Kael Normandon à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
RRB, il est 11h57.
C'est le début de la semaine de l'industrie. Comme chaque année, la Fédération des entreprises et industries de Nouvelle-Calédonie, la FINC, invite le grand public à venir à la rencontre des acteurs de la filière. Mickaël Geneski.
Jusqu'au 19 septembre, de nombreuses opérations seront menées pour mettre en valeur les compétences calédoniennes dans ce domaine. Au programme, des visites d'usines, des conférences sur les enjeux du secteur ou encore l'ouverture d'une boutique éphémère à Nouméa. Cette opération est l'un des moments où les entreprises peuvent se faire mieux connaître de leur public, notamment à travers l'ouverture des portes des sites de production. Marie-Amélie Molia est vice-présidente de la Fédération des entreprises et industries de Nouvelle-Calédonie.
Le programme est plutôt chargé. Cette semaine et la semaine prochaine, des visites d'entreprises et visites d'usines sont organisées pour les scolaires et pour le public. Il ne faut pas hésiter pour découvrir les outils industriels qui font la vie des Calédoniens. L'industrie et les industriels méritent vraiment qu'on leur fasse honneur parce que c'est un réel engagement que d'être industriel en Nouvelle-Calédonie. Il faut en prendre la mesure. C'est cette 13e édition de la semaine de l'industrie. C'est aussi pour ça qu'elle est importante. Peu d'occasions de mettre à l'honneur les industriels et les savoir-faire. C'est effectivement aussi une façon de rendre hommage aux compétences des Calédoniennes et des Calédoniens qui travaillent dans ces industries. Il faut être fier, encore une fois, de ce qu'on produit en Nouvelle-Calédonie.
Et parmi les nouveautés cette année, l'ouverture donc, le temps de cette semaine de l'industrie, soit du 7 au 19 septembre, de la boutique éphémère à Nouméa dans la galerie de l'Alma pour exposer un large panel de produits locaux. Un vrai motif de fierté selon Laure Vial L'Enfant, chef d'atelier de la société Envie.
On a eu la chance d'être invité pour ces 15 jours d'exposition. Envie, c'est une structure d'insertion par le travail. On aide des personnes en situation de handicap et éloignées de l'emploi à se remettre un peu dans le chemin de l'emploi. Et le levier pour ça, c'est le upcycling, le surcyclage. Donc on a une quarantaine d'entreprises partenaires chez qui on va chercher de la matière première, dont une bonne partie fait partie de la FINC. Du coup, ils nous donnent leur chute de production pour qu'on puisse réaliser des objets avec. Ces objets sont exposés en ce moment même dans la boutique et c'est vraiment une chance parce que ça permet de fédérer, de montrer notre travail, d'être exposé aux côtés de nos partenaires, de valoriser aussi notre activité. C'est vraiment super.
Autre temps fort, la visioconférence prévue le 16 septembre à partir de 17h à l'Université de la Nouvelle-Calédonie avec Arthur Keller qui est expert des risques systémiques et des stratégies de résilience collective. Des échanges pour comprendre notamment comment s'adapter aux bouleversements climatiques. Le programme complet de la semaine de l'industrie est disponible sur le site internet de la FINC.
Et une nouvelle mission pour la caravane de l'entrepreneuriat. Le dispositif qui vise à inciter et accompagner ceux qu'ils souhaitent vers la création de leur entreprise a repris sa route. Jusqu'au 18 septembre prochain, l'opération menée avec des lycéens du parcours entrepreneur sillonne les routes de la Grande Terre et se rendra pour la première fois aux îles Loyauté et à l'île des Pins. Depuis que le programme a vu le jour en Nouvelle-Calédonie, il commence à porter ses fruits selon Julie Micheli, la coordinatrice de la caravane de l'entrepreneuriat.
Quand on a commencé le programme, donc il y a 3 ans, nos élèves n'avaient pas du tout envisagé l'entreprise comme un débouché. C'était hors cadre, c'est-à-dire ça n'était pas accessible. Donc aujourd'hui, on constate que non seulement ils ont intégré que l'entreprise, on pouvait y travailler, et la création d'entreprise, ça devient même une option. N'importe où sur le territoire, en fait, il y a des marchés qui ne sont pas comblés, avec des besoins auxquels, pour l'instant, on ne répond pas. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'ils sont capables aujourd'hui de se dire « Ok, là, il y a un besoin, et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée ?» Et ça devient possible. L'entreprise, à la fois en tant que salarié, pourquoi pas en tant que créateur, devient tout à fait accessible et ça n'est pas réservé à une élite. Et c'est ça qu'il fallait leur dire en fait. Une entreprise, c'est jamais plus qu'une réponse à un besoin identifié. Et je pense que les jeunes, potentiellement en tribu, qui ont des idées mais qui ne savent pas comment faire, ont besoin de savoir qu'en réalité, il y a un potentiel d'accompagnement sur le territoire qui est assez incroyable.
Et la caravane de l'entrepreneuriat est un dispositif mis en place à l'initiative du lycée Jules Garnier et soutenu par le vice-rectorat, l'ADI, Initiative NC, le MEDEF ou encore l'association des entrepreneurs Kanak.